le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Nous sommes effectivement simultanés sur Radio Imo et Radio Territoria. Comme vous le savez, avec nos équipes, nous sommes depuis hier à Bordeaux pour le congrès HLM de l'Union nationale de l'habitat, un événement fédérateur pour les acteurs économiques et sociaux de l'habitat social. Et dans ce cadre, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on connaît très bien et qu'on aime beaucoup sur notre antenne, Michaël Nogal. Bonjour.
Bonjour Kenza.
Vous allez bien, Michaël ?
Très bien, merci.
Vous êtes toujours évidemment député de la 4e circonscription, on va y arriver, de Haute-Garonne et président du Conseil national de l'habitat.
Exactement.
Alors avant d'aborder avec vous les grandes lignes de ce congrès, mais surtout de vos objectifs premiers, qu'est-ce que le Conseil national de l'habitat ? Quelle est votre fonction exacte ?
Alors le Conseil national de l'habitat que je préside depuis un an, c'est un peu le Parlement du logement, c'est-à-dire que c'est une instance qui réunit tous les acteurs du logement, privés, publics, associations, et qui se prononce sur tous les éléments de la politique du logement, sur les textes réglementaires qui sont pris par le gouvernement. Et l'idée, voilà, c'est une instance de débat et de décision autour du logement.
Vous êtes un passionné de politique.
Moi, je suis un passionné de politique. J'ai commencé assez jeune en tant que militant d'abord. Je fais partie des Benjamins de l'Assemblée aujourd'hui.
C'est vrai.
Parce que j'ai été élu à 26 ans. J'en ai 30 aujourd'hui, donc. Et c'est vrai que la politique, c'est à la fois une passion et puis depuis très longtemps.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce milieu si compliqué, si complexe ?
Ce que j'aime, c'est, et ce pourquoi moi je me suis engagé, c'est pour changer la vie des gens, en fait. Améliorer la vie des autres, servir les autres. Et la politique, c'est ça, c'est le quotidien. Et parfois, ça peut paraître une bulle et une élite qui décide et qui débat entre elles. En réalité, le logement est une des raisons pour laquelle je me suis engagé sur ce sujet du logement. C'est qu'il n'y a pas plus quotidien comme sujet que celui-là, y compris pour des gens qui sont aujourd'hui à la rue et qu'on essaie, ça fait partie de la politique du gouvernement, de reloger au plus vite les gens. Mais quand vous êtes dans le logement social, moi j'ai vécu dans le logement social, je suis allé à l'école publique, j'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir progresser, évoluer. Aujourd'hui, je suis devenu propriétaire. Enfin, je crois que j'ai le parcours classique d'un Français qui aspire à mieux vivre. Et donc, voilà, l'idée, c'est que ce que moi, j'ai reçu aussi de l'État, ben, je puisse le redonner. Et c'est la raison de mon engagement.
Comment est-ce qu'on arrive à reséduire des Français qui sont sans cesse déçus par une gouvernance qui ne répond finalement plus vraiment à leurs préoccupations quotidiennes ?
Je crois qu'il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, en parlant le même langage que les Français, y compris moi, parfois, j'essaie de ne pas tomber dans ce travers-là du politique, soit qui parle trop, soit qui utilise un vocabulaire technique et qui ne parle qu'à des initiés. Et puis après, je crois que c'est en ayant des actions, en menant des actions concrètes. Et c'est pour ça que moi, je suis beaucoup au contact des professionnels. Je viens régulièrement et je vous remercie de m'inviter sur Radio Imo.
Je vous en prie.
Parce que c'est le politique, il prend des grandes décisions au niveau national, au niveau local aussi. Mais le politique, il crée les outils. Et ensuite, c'est les acteurs. On est aujourd'hui au congrès HLM. C'est les bailleurs sociaux, c'est les promoteurs, c'est les entreprises du bâtiment qui font concrètement et qui changent au quotidien la vie des gens. Donc le politique, il est là pour être un facilitateur, pour accompagner, pour donner le chemin, pour donner la vision et pour accompagner les acteurs de terrain.
Alors justement, il arrive parfois que nos gouvernements aient des bonnes idées. Justement, Emmanuel Wargon a lancé en février dernier « Habiter la France de demain ». Vous nous expliquez un petit peu en quoi consistent les objectifs de cette campagne, j'ai envie de dire.
Oui, « Habiter la France de demain », c'est donc une grande concertation qu'a lancée la ministre du Logement pour en fait identifier les sujets, essayer de trouver un consensus sur comment doit évoluer la politique du logement demain. Quand on entend les acteurs du logement, on entend qu'il faut construire plus. C'est des sujets qui reviennent. Mais derrière la partie technique, c'est comment les Français veulent vivre demain. Est-ce qu'on veut plus vivre dans des immeubles, en centre-ville et profiter des transports, des sources d'emploi ? Est-ce qu'on préfère habiter à la campagne ? Comment on fait pour trouver des solutions pour tout le monde et pour que chacun puisse choisir son destin et en quelque sorte choisir vraiment sa vie, être maître de sa vie ? Comment on fait en sorte de concilier l'impératif de construction de logements et en même temps l'urgence climatique et la transition environnementale ?
Oui.
Tout ça, c'est des sujets qu'on a mis dans le débat public. Donc pendant plusieurs mois, les Français ont pu, par une consultation numérique, donner leur avis. Et puis là, on
ça,
arrive...
c'est une première, pardonnez-moi.
Mais... Oui, ça, c'est une première, exactement. Et je crois que Vous me demandiez tout à l'heure comment on fait en sorte de peut-être même de réconcilier la population avec les élus, les politiques.
C'est de les investir.
Ben voilà, c'est ça. C'est de les investir par la Convention citoyenne pour le climat, par ce type de concertation, et que chacun puisse donner son avis, faire des propositions. Et évidemment, tous les professionnels et tous les acteurs du logement sont associés. Il y aura une restitution qui sera organisée le 14 octobre prochain, avec des annonces de la part de la ministre sur justement comment on va faire évoluer les grands sujets du vivre ensemble dans le logement.
Quand vous parlez d'une vision réaliste du futur des villes, pour moi ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est quoi une vision réaliste ?
Une vision réaliste, c'est tenir compte des contraintes et des attentes de la population.
Oui.
Aujourd'hui, il faut concilier la famille, le boulot, les déplacements, le transport, le logement. Quand on a une décohabitation, un divorce par exemple, quand on a un enfant qui vient s'ajouter, qu'on a besoin d'une chambre supplémentaire, c'est éviter de laisser les Français dans les bouchons et faire une heure de trajet, voire plus, aller et retour.
Ah, vous pouvez parler aux Bordelais, hein, ils sont d'accord.
Dans la journée, ça c'est clair, mais moi en tant que Toulousain, oui, j'ai expérimenté à Bordeaux.
Bah oui.
Je retrouve ça à Toulouse ou à Paris quand je suis à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que c'est une vision réaliste, c'est tenir compte en fait de la réalité de la vie des gens et essayer à chaque fois de trouver les bonnes solutions. Mmh. Donc concrètement, c'est construire des logements étudiants au plus proche des lieux d'études, au plus proche de l'université, pour éviter en plus que l'étudiant ait à acheter une voiture, puisse se déplacer facilement.
Puis tout le monde n'a pas les moyens.
Et puis tout le monde n'a pas les moyens. Et quand, par exemple, on veut encourager la transition environnementale, financer la rénovation du logement, c'est financer l'acquisition d'un vélo électrique. C'est tout ça, en fait. C'est être au plus près des besoins de la population, jour après jour.
Alors, pour finir justement sur ce grand mouvement, à partir du 30 août, je crois, 2021, vous vous attaquez à la dernière phase.
Oui, exactement.
Alors, après, c'est quoi ? Le but, c'est quoi, après ?
Après, c'est de trouver des mesures, identifier des mesures qui font consensus. Mmh. Dans ces réunions-là, qui sont organisées toutes les semaines par la ministre du Logement, il y a des gens qui sont des représentants des associations, par exemple des propriétaires ou des locataires ou des gens dans la précarité. Vous avez aussi des promoteurs immobiliers, vous avez des bailleurs sociaux. Et donc, l'idée, c'est qu'on s'accorde tous pour fixer des priorités, et ensuite ce sera à l'État de mettre les moyens. Si on identifie par exemple quelque chose qui permet d'améliorer la vie des gens, du coup on mettra le paquet aussi en termes de finances pour accompagner ça.
Très bien, donc on va suivre en tout cas les étapes d'après pour suivre ça de très près. Alors j'aimerais quand même connaître votre avis sur le rapport Rebsamen.
Oui.
Le Premier ministre Jean Castex a présenté hier une série de mesures pour relancer les constructions, en s'appuyant principalement sur les maires. D'abord, quel est votre avis ? Quel retour vous en avez ?
Alors, je suis partie prenante parce que j'étais membre. J'ai fait partie des 32 membres de cette commission. Là aussi, on s'est réunis ces derniers mois. Et l'idée, cette commission, elle a pour but de relancer la construction parce qu'en France, en fait, il y a eu un coup d'arrêt en raison de la crise, mais pas que. Il y a parfois un frein de la part des élus locaux à ne plus construire, et en particulier du logement social. Donc là, l'idée des annonces du Premier ministre vise à garantir aux élus locaux qu'ils vont pouvoir, sur le long terme, continuer à construire du logement social et qu'ils vont être aidés dans ça. Donc ça passe par des mesures fiscales, ça passe par des mesures réglementaires. Mais en gros, le message qu'on envoie aux élus, c'est de dire on va vous simplifier la vie et on va vous garantir les financements qui vont vous permettre de construire du logement social. Parce qu'il y a plus de 2 millions de personnes aujourd'hui qui attendent un logement social.
Est-ce que les permis de construire sont donnés de façon simple aussi ?
Et non, et en fait, la difficulté...
C'est ça, parce que la problématique, elle est là.
Exactement.
Aussi. Alors, qu'on a beau être maire bâtisseur, mais si on ne signe pas les...
Exactement, et la difficulté de ce secteur, c'est que les situations, elles sont différentes sur tout le territoire.
C'est vrai.
Vous avez des élus qui veulent construire beaucoup, vous avez des élus qui... promettent à leur population en période de campagne électorale qu'ils ne construiront plus.
Ça, c'est pas bien.
C'est pas bien. Et en même temps, vous savez, moi, je suis élu et je respecte la légitimité de ces personnes-là. Mais le message qu'on veut leur faire passer, c'est que la construction de logements sociaux, mais pas que, c'est une responsabilité collective. Et le message vers le citoyen, c'est qu'on ne peut pas espérer que le logement, les loyers soient moins chers, qu'on accède plus facilement à la propriété s'il n'y a pas plus de logements sur le marché. De fait, c'est mathématique, moins d'offres, ça voudra dire des prix plus chers pour tout le monde.
Oui, alors
donc c'est une responsabilité collective.
Mais Mickaël Nogal, qu'est-ce qu'on fait avec les maires qui, eux, refusent catégoriquement d'avoir des logements sociaux dans leur commune et qui préfèrent finalement payer des amendes et,
C'est ça.
Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là?
Alors, il existe en effet depuis 20 ans une loi, oui. La loi dite SRU, qui oblige en effet un certain nombre de communes à construire 20 à 25% de logements sociaux sur leur territoire. Il y en a certains qui, c'est vrai, vous l'avez dit, préfèrent payer des amendes
oui.
que de construire du logement social. Et donc, l'idée, c'est d'abord de discuter, en fait, quel doit être le bâton et la carotte. Je pense que le bâton, peut-être qu'il tape pas assez fort. Donc peut-être voir pour
peut-être.
Ceux qui vraiment ne veulent pas participer à cet effort collectif, être plus dur sur les sanctions. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a déjà la possibilité, l'État, par les préfets, a déjà la possibilité de récupérer les permis de construire si le maire ne veut pas vraiment construire du logement social. Ça arrive dans quelques villes. Mais plus globalement, il faut qu'on essaie de recréer un rapport gagnant-gagnant, que le maire se dise « c'est dans mon intérêt de construire du logement ». Et donc ça passe par les mesures annoncées par le Premier ministre.
Est-ce que finalement, excusez-moi, mais est-ce que finalement la problématique n'est pas le logement social en lui-même, mais surtout la population qui habite dedans ?
Alors, la question de la mixité, elle se pose.
Mais oui.
C'est parfois une crainte des maires qui ont encore cette image du logement social d'antan, où c'est vrai que de la cité, où on a construit des grands ensembles. Je veux le dire aujourd'hui à la fois aux auditeurs et aux élus qui nous écouteraient, le logement social, c'est plus ça aujourd'hui.
Oui.
Aujourd'hui, le logement social, vous ne distinguez pas un immeuble construit par un promoteur d'un bailleur social. Vous avez y compris, et c'est les deux tiers des logements sociaux qui sortent dans des programmes où vous avez à la fois du secteur libre, intermédiaire et du logement social. Dans le même immeuble, vous avez différents types de familles avec différentes ressources qui logent au même endroit.
Oui.
Donc c'est fini le côté, il y a le logement social et puis il y a tout le reste. Aujourd'hui, on crée de la mixité en mélangeant les types de logements et en faisant en sorte que, y compris dans les centres-villes, on puisse continuer à loger des familles et éviter que les gens partent à 50 km des villes et
se
tapent
toutes
les contraintes imposées par la distance, par le manque de services publics, par le manque de commerce. Et voilà, c'est tout ça qu'on essaie de réfléchir.
Donc pour vous, il y a surtout un changement de mentalité, hein, des responsables politiques, mais à la fois, et aussi, finalement, c'est un effort collectif qu'il faut avoir.
C'est exactement ça.
Alors je voudrais qu'on parle du PLF.
Oui.
Vous nous en dites deux mots.
Oui, le projet de loi de finances, donc le budget pour l'année prochaine, qui va intégrer des mesures hyper importantes, et notamment un sujet qui cartonne aujourd'hui, c'est MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est la
qui a été renouvelée, je crois.
Voilà, qui a été renouvelée, donc qui aura un budget de 2 milliards d'euros, c'est deux fois plus que ce qui était initialement prévu. 4 milliards au total sur les deux ans. Et l'idée, c'est que là aussi, on facilite la rénovation des logements. Et donc là aussi, un message que moi, je veux faire passer, c'est que on a fixé dans la loi climat des objectifs ambitieux pour que l'ensemble des Français vivent mieux demain dans leur logement et pour qu'on baisse la part d'émissions de gaz à effet de serre du logement. Je rappelle aujourd'hui les grands chiffres. Le bâtiment, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Les avions, par exemple, parce qu'on parle beaucoup des avions, c'est 3%. Donc en gros, si on veut vraiment faire des économies et améliorer la lutte contre le réchauffement climatique, il faut mieux lutter contre les passoires thermiques que contre les avions. Ça ne fera pas beaucoup avancer les choses. Par contre, le bâtiment, on met le paquet dessus. Ça va se concrétiser dans le projet de loi de finances. Il va y avoir, puisqu'on essaie d'encourager les maires à construire, une aide aux maires bâtisseurs de 175 millions d'euros qui va être aussi redéployée pour ces maires-là. C'est-à-dire que les maires qui acceptent de densifier, de construire un peu plus haut, de construire plus de logements de manière générale, vont être accompagnés par l'État. C'est un des moyens qu'on a trouvé pour leur dire on sait la contrainte que ça représente de construire du logement et parfois la population qui ne l'accepte pas, mais en même temps, vous pouvez compter sur l'État pour être à vos côtés, pour vous aider à financer ces opérations.
En matière de passoires thermiques, est-ce qu'on ne s'est pas rendu compte aussi, Mickaël Nogal, que finalement, entre ce qu'on imaginait et ce qu'on a retrouvé sur le terrain, il y avait deux fois plus de problématiques que prévu ?
Oui, alors là, c'est le sujet du diagnostic de performance énergétique qui est en vigueur depuis le 1er juillet. Il y a en effet des correctifs qui vont être apportés. L'idée est là pour être assez clair. Avant, le diagnostic de performance énergétique, il ne s'intéressait qu'à la consommation d'énergie du logement. Et là, ce qui change depuis le 1er juillet, c'est que l'étiquette, elle s'intéresse à la fois à la consommation d'énergie, mais aussi à l'impact environnemental et aux émissions de gaz à effet de serre. Donc ça change. je le dis aux auditeurs qui nous écouteraient, qui ont fait réaliser un DPE avant ce 1er juillet, il va falloir le refaire, pas tout de suite, on leur laisse du temps, mais il va falloir le refaire parce qu'on intègre des données qu'on n'intégrait pas avant. Donc voilà, il y a une période de mise en place qui va nécessiter encore quelques semaines.
Donc le PLF 2022 et le logement, c'est la priorité clairement renouvelée à la prime Rénov. Hein.
Ma prime Rénov,
et à l'hébergement.
L'aide aux maires bâtisseurs. Ce qu'on a promis aux bailleurs sociaux, c'est un peu technique, mais c'est la compensation de l'exonération de taxes foncières, c'est-à-dire que les bailleurs sociaux ne payent pas pendant un certain nombre d'années de taxes foncières sur les immeubles qu'ils construisent. Et c'est l'État qui se charge de compenser auprès des maires, là aussi, pour inciter encore une fois les maires à construire. Qui compense cette perte. Voilà.
Autre chose avant qu'on aborde peut-être un sujet aussi que moi qui me tient à cœur, c'est la justice sociale, donc l'accès au logement. Vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur de par votre parcours, mais aussi de par votre combat. Est-ce que vous avez la sensation qu'en France, on a sacrément évolué ces dernières années sur ces questions-là, ou est-ce qu'on est très en retard par rapport à nos voisins européens, par exemple ?
Non, je crois que on a en France un modèle social et un modèle du logement qui est très particulier et très propre, et même qui nous est envié. Donc le modèle, je crois, il nous est envié. Donc il faut qu'on le sécurise. C'est-à-dire que pendant la crise, les bailleurs sociaux ont été en difficulté, l'État a été au rendez-vous. Et on va continuer parce que on a l'idée en France de créer des parcours résidentiels. Derrière cette expression-là, le sujet c'est quoi ? C'est que quand vous êtes étudiant, vous devez pouvoir trouver un logement adapté à cette période de vie. Quand vous vous mettez en couple, c'est pareil. Quand vous faites des enfants, quand vous déménagez pour aller prendre un emploi dans une autre région, vous avez besoin qu'on vous accompagne dans ce déménagement. C'est tout ça qui fait qu'on peut parler à la fin de justice sociale et que chaque individu, homme, femme, d'où qu'on vienne, où qu'on soit, quels que soient nos choix de vie, parce qu'on n'est pas tous obligés de vouloir vivre en ville ou même à la campagne, chacun fait des choix différents, et puis au cours de la vie, les besoins, ils évoluent. Donc voilà, donc la puissance publique, les pouvoirs publics doivent être au rendez-vous pour accompagner l'ensemble des Français.
Michaël Nogal, une dernière question. Ça aussi, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé, surtout aussi durant ce congrès, qui est l'autonomie des personnes âgées chez elles. L'idée, c'est que nos aïeux puissent vivre le plus longtemps possible chez eux. Clairement, toutes les personnes âgées en France n'ont pas les moyens d'aller dans dans un institut médicalisé ou dans une maison de retraite. Comment on répond à ce genre de problématique, sachant qu'on a une population qui est vieillissante de plus en plus ?
Alors ça fait partie, avec la transition énergétique des logements, d'un enjeu majeur pour l'avenir, parce qu'on a une population qui vieillit. Et donc, il faut pouvoir permettre à tous les personnes âgées qui sont toujours autonomes de rester à la maison. Et donc, ça veut dire adapter les logements.
Et oui.
Typiquement, la douche, c'est le premier truc qui vient à l'esprit, c'est adapter les baignoires et remplacer les baignoires par des douches dans lesquelles les personnes âgées... Les escaliers, évidemment. Donc, mettre des ascenseurs dans des immeubles qui n'en avaient pas avant, quand c'est possible, évidemment. Et donc ça passe aussi par des financements. Et je veux saluer l'action du groupe Action Logement, qui subventionne aussi cette transformation de baignoire en douche, par exemple. Et je crois que il faut qu'on puisse avoir des dispositifs tels que MaPrimeRénov pour la transition énergétique, qu'on ait un même dispositif qui permette à tous les Français et à toutes les personnes âgées d'adapter justement leur logement avec une prime qu'ils perçoivent directement. Voilà, donc,
bon, vous n'allez pas pouvoir tout faire, hein, Michaël, vous le savez, ça.
Non, mais vraiment, j'insiste là-dessus, environnement, adaptation de la société au vieillissement.
Et puis vous n'êtes pas
tout seul, surtout. Et puis je ne suis pas tout seul. Et
effectivement.
Voilà, il y a des budgets, il y a un gouvernement, il y a plein d'acteurs qui sont réunis ici à Bordeaux pour faire avancer tout ça. Donc l'essentiel, c'est d'avancer ensemble.
Exactement. En tout cas, vous savez que vous êtes chez vous sur Radio Immo. Vous venez quand vous voulez, Michaël Nogal. Merci beaucoup, député de la 4e circonscription de Haute-Garonne et président du Conseil national de l'Habitat. Merci beaucoup.
Merci.
Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du Parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Immo et Radio Territoria.